France Culture. Les midis de culture. Élise Lépine.
Bonjour et bienvenue dans l'univers d'une musicienne, d'une magicienne même. Esther Abrami joue du violon depuis son plus jeune âge, diplômée notamment du Collège Royal de Musique de Londres et du Conservatoire Royal de Birmingham. Elle a obtenu le premier prix du Golden Classical Music Award en 2017, mais aussi un Global Award dans la catégorie Superstar des médias sociaux. Elle a déjà enregistré 3 albums, mêle musique classique et musique de film, et sort Women, un disque mettant à l'honneur les compositrices. Elle joue aussi bien en solo qu'avec un orchestre. Elle s'est produite dans les plus grandes salles du monde et a envoûté le public du Parc des Princes après la victoire du PSG à la Ligue des Champions. Elle est en ce moment en tournée et sera le 23 novembre sur la scène de l'Olympia. Nous l'aimons parce qu'elle excelle tout en cassant les codes et les idées reçues. Alors, musique, maestra! Bonjour Esther Abrami.
Bonjour.
Avant de commencer cette discussion, j'ai très envie de vous entendre jouer et je vous propose d'interpréter pour nous dans le studio des Midis de Culture en direct le morceau Transmission. Merci beaucoup Esther Abrami pour cette magnifique interprétation de votre morceau Transmission. Je vous laisse vous installer à côté de moi. Bravo.
Merci beaucoup.
C'était absolument sublime. Et est-ce que vous pouvez nous parler de ce morceau justement Transmission, Esther Abrami? Je crois que c'est un hommage à votre grand-mère qui est celle qui vous a mis pour la première fois un violon entre les mains.
Effectivement, c'est Transmission, c'est déjà la première composition que j'enregistre et que je mets sur un de mes albums. Jusqu'à maintenant, j'avais fait seulement de l'interprétation. Et donc déjà, ça veut dire beaucoup. Et c'est un morceau que j'ai voulu dédier à ma grand-mère, effectivement. Et en tout cas, justement à cette transmission qu'il peut y avoir entre femmes, des fois qui saute même une génération et qui n'était pas forcément voulue. C'est-à-dire que ma grand-mère, alors elle était violoniste, elle a arrêté le violon quand elle s'est... Enfin, en tout cas, elle a arrêté sa carrière quand elle s'est mariée. Et quand elle m'a mis un violon dans les mains quand j'avais 3 ans, à aucun moment elle a pensé que je serais moi un jour violoniste. À aucun moment, même lors de mon enfance, elle m'a poussée ou elle m'a dit « Ah, tu devrais essayer ». Ça a été... elle m'a transmis quelque chose sans le vouloir, je crois.
Et vous êtes née à Aix-en-Provence en 1996. Vous avez cette grand-mère donc qui vous fait jouer du violon, mais sans forcément vous projeter, comme vous le disiez, dans une carrière ou dans une pratique professionnelle de la musique. Est-ce que vous ne vous êtes jamais sentie finalement programmée pour cette carrière de musicienne?
Non, programmée non. Effectivement, ma grand-mère m'a mis un violon dans les mains quand j'avais 3 ans, mais ça a été une découverte, vraiment, juste une découverte. Et d'ailleurs, mes parents ne m'ont jamais, et je les remercie pour ça, poussée dans une voie, et d'ailleurs dans celle-ci, ils m'ont laissé vraiment juste par exemple découvrir l'instrument. Quand, après l'avoir découvert avec ma grand-mère, je l'ai rapporté chez moi, le petit violon, et je me suis amusée avec, mais sans vraiment prendre ça au sérieux, vraiment juste comme une enfant. Et c'est à la suite d'un concert qui m'avait marqué, qui était un concert de musique klezmer, jazz manouche, que j'ai adoré, où j'ai vu un violoniste jouer. Après ce concert-là, j'ai demandé des cours de violon. Et après j'ai eu ce premier cours de violon, et là, il y a eu un coup de foudre.
Et quand vous entrez au conservatoire, vous avez 10 ans.
Oui.
Finalement, c'est assez tard pour un parcours de musicienne professionnelle.
C'est vrai que c'est assez tard. Beaucoup de gens commencent beaucoup plus tôt. Et honnêtement, mais j'étais tellement passionnée, et même déjà à l'époque, c'est-à-dire que même petite, des fois, je revois les mes parents m'ont montré, mon papa a retrouvé les cassettes de l'audition, de mes premières auditions, et quand je vois, je prends ça tellement au sérieux, c'était toute ma vie, déjà des petites.
Vous brûlez pour la musique, et puis vous choisissez de partir en Angleterre à partir de 14 ans à Manchester. Pourquoi vous avez fait ce choix-là de traverser la Manche pour aller étudier le violon?
C'est une bonne question. Partir d'Aix-en-Provence pour aller à Manchester, c'est pas tout le monde qui le fait. Mais en fait, j'ai fini le conservatoire d'Aix-en-Provence, et on a entendu parler d'une école en Angleterre, à Manchester, qui mêlait musique et académique dans le même bâtiment pour les jeunes vraiment qui justement avaient envie de faire ça. Et c'est vrai qu'étant au collège, j'étais un peu la seule à avoir ce rêve-là. Et donc j'avais du mal à être comprise, je crois. J'étais déjà de manière générale assez timide et j'étais vraiment dans mon monde. Donc je pense que c'était un petit peu aussi compliqué et même de trouver le temps avec les heures à l'école. Je suis partie, j'ai auditionné pour cette école à Manchester. Et ce qui était génial, c'était de me retrouver dans une classe avec des jeunes qui voulaient tous faire la même chose que moi, quoi.
Et à ce moment-là, vous parlez déjà anglais?
Pas du tout, pas du tout. Je ne parle pas un mot d'anglais. J'ai passé l'audition, et d'ailleurs, normalement, pour rentrer dans cette école-là, il fallait être bilingue, parce que j'ai ensuite suivi tous les cours en anglais. J'ai repris en fait le même parcours académique dans la même classe, mais en anglais. Et j'ai vraiment fait quelque chose c'est-à-dire qu'à l'audition, j'avais préparé, en fait, il fallait dire un texte, se présenter pendant à peu près 15-20 minutes. Et ce que j'ai fait, parce que je ne parlais pas du tout l'anglais, c'est que j'ai fait écrire un texte par une prof d'anglais que j'ai payée pour m'écrire ce texte-là. Je lui avais donné en français, elle me l'a écrit en anglais. Et je l'ai appris par cœur, mot pour mot, et je l'ai récité en espérant vraiment que personne ne me pose de questions. Parce que s'il y avait un membre du jury qui me posait une question, c'était fini. Je ne pouvais pas répondre, je n'allais même pas comprendre la question. C'est pour vous dire, mon niveau d'anglais était vraiment, vraiment à zéro. Mais je ne sais pas, ils n'ont pas posé de questions. Et je suis rentrée à l'école, et le premier jour de la rentrée, je me suis perdue dans l'école parce que je ne comprenais pas les directions des gens. Et là, je crois qu'ils se sont dit, mais attendez, elle ne parle pas anglais en fait. C'était trop tard, j'étais déjà dans l'école. Donc.
Vous y êtes vraiment allé au culot.
Ah oui, complètement.
Il faut une sacrée oreille pour arriver à lire tout un texte sans soulever de questions ou de doutes.
C'est vrai.
Soupçons.
Après, j'ai une bonne mémoire, mais oui.
Vous êtes devenue assez active aussi sur les réseaux sociaux, assez vite finalement. Vous avez beaucoup de followers sur vos différentes pages de réseaux sociaux. Puis vous avez eu cet award de superstar des médias sociaux. Qu'est-ce que ça vous apporte d'être active sur les médias? On vous voit beaucoup vous entraîner. Souvent, c'est assez drôle. Vous nous plongez dans ce quotidien qui est le vôtre, entre les répétitions, des moments où vous chantez les notes, ce qui est assez impressionnant. Et on découvre aussi l'intense discipline qui est la vôtre au quotidien. Qu'est-ce que ça vous apporte et qu'est-ce que ça change pour vous de partager tout ça?
Je pense que c'est important de partager ça parce que peu de gens réalisent, quand on n'est pas dans le monde de la musique classique, quand on n'a pas étudié ça depuis petit, je pense que peu de gens réalisent le travail que c'est. Et je pense qu'on n'écoute pas la musique de la même manière quand on va à un concert et qu'on connaît vraiment en fait ce que c'est la vie de la personne sur scène. Et la musique classique est un monde, je pense, qui est des fois pas très médiatisé. Et ça fait que les gens ne le connaissent pas. Et donc, ce que j'essaye de faire, et ce que j'ai pu faire avec les réseaux sociaux, c'est de montrer en fait des parties de ma vie de musicienne classique que les gens ne voient pas forcément d'habitude. Et effectivement, c'est des scènes de travail vraiment, où effectivement je vais chanter les notes, où je vais répéter, où je vais aussi des fois juste 5 minutes avant de monter sur scène, je suis en stress et je monte ces moments-là parce que je pense que ça rend le tout assez humain, plus humain. Ça et je pense que le public du coup peut se sentir plus proche, mieux comprendre ce que c'est, parce que je pense que c'est juste, je veux dire, quand on a étudié un instrument depuis tout petit, c'est des sacrifices qui ont été faits. C'est énormément de sacrifices et c'est des choix que j'ai faits, que personne n'a forcé de faire, mais c'est des sacrifices. Et je pense que c'est important pour les gens de se rendre compte de ça, de se rendre compte que quand on monte sur scène et qu'on va jouer un concerto, c'est des centaines et des centaines et des centaines d'heures. Et c'est des centaines et des milliers de notes même qui sont dans notre tête qu'on doit apprendre par cœur. Et je pense que quand on voit ces vidéos-là, on réalise un petit peu plus tout le travail qu'il y a derrière.
Et vous suscitez des vocations aussi chez les jeunes filles, les jeunes garçons aussi qui vous suivent.
Oui, et ça fait tellement plaisir. C'est vrai que je reçois pas mal de messages de parents, de filles qui me disent qu'elles ont commencé le violon ou qu'ils ont commencé le violon à la suite de mes vidéos, et puis même que ça les encourage en fait de regarder mes vidéos. Et ça veut dire beaucoup pour moi, parce que c'est vrai que quand j'étais plus jeune, j'ai pas vraiment eu ça, et des fois je me sens assez seule. Donc quand je suis à mes concerts et que je rencontre et que je vois à la fin vraiment une queue de petites filles qui viennent et qui me racontent et leurs morceaux qu'elles sont en train de jouer, le dernier concert que j'avais fait, il y en a une qui a amené son violon et je lui ai dit viens, joue-moi quelque chose. C'est merveilleux. Là j'ai vraiment l'impression de faire quelque chose d'utile quand je vois ça.
Il y a une chose que vous n'aimez pas sur les réseaux sociaux et ailleurs, Esther Abrami, c'est qu'on commente ou qu'on vous reproche le choix de vos tenues. Alors on dit que vous êtes assez iconoclaste, hein, Esther Abrami, en rupture avec l'image de la musicienne en robe noire, en chignon strict, serré. Vous collaborez avec des belles marques de mode, vous avez des looks très chics, d'autres qui sont beaucoup plus cool. Et vous en parlez sur vos réseaux. Qu'est-ce que vous souhaitez apporter ou faire évoluer aussi dans ce milieu de la musique classique qui a pas mal d'idées reçues, autour duquel il y a pas mal d'idées reçues?
Ce que j'essaye déjà, en tout cas, c'est d'être moi-même et d'arriver à ça. C'est pas toujours facile et ça m'a pris du temps. J'ai toujours adoré la mode du côté de la famille de mon papa. Ils étaient dans les tissus, c'était les tissus Bouchara. Et donc déjà, petite, j'ai toujours aimé imaginer des robes que je pouvais me faire avec les différents tissus. J'ai toujours aimé ça, j'aime l'image. Et quand je suis ensuite rentrée en école supérieure, c'est un côté de moi que j'ai essayé de cacher un petit peu, parce que dès que j'en parlais, dès que je montrais que j'aimais bien m'apprêter, que j'aimais bien mettre des robes fendues ou quoi sur scène, j'étais tout de suite critiquée en disant que j'étais superficielle, en disant que si je passais du temps à me préparer, c'est-à-dire que je passais plus de temps devant le miroir qu'à travailler mon violon, enfin des espèces de raccourcis comme ça qui n'avaient pas beaucoup de sens honnêtement. Et j'ai donc arrêté d'en parler. J'ai donc un peu essayé d'effacer ça et de me fondre dans la masse, on va dire. Ça ne m'a pas réussi. J'étais assez malheureuse. Et après, quand j'ai commencé même à poster sur les réseaux sociaux, cette communauté, que j'ai vu que, en fait, d'être soi-même, ça apporte beaucoup. Et surtout, je pense qu'on est prêt à aller beaucoup plus loin quand on est complètement soi-même. Parce que même dans les moments difficiles, même quand on est critiqué, on sait qu'on le fait, parce qu'on y croit, c'est vraiment nous. Et à partir de là, je me suis assumée de plus en plus, en tout cas. Et aujourd'hui, j'ai effectivement plus du tout, ça me fait plus rien. Enfin, en tout cas, cette critique ne me fait plus rien. Alors, j'en parle parce que je pense que c'est important de montrer que c'est ce genre de messages et ce genre de commentaires, je le reçois toujours. Mais la vérité, c'est que je suis, quand on monte sur scène, honnêtement, je pense que c'est important de se sentir puissante. Et c'est le cas avec ces tenues-là. Et donc, si je me sens bien dedans, je ne le fais pas pour créer un buzz, je ne le fais pas pour ça du tout, je le fais parce que c'est comme ça que j'ai envie de m'habiller et je me sens bien comme ça, quoi.
Une femme puissante, Esther Abrahmi, et vous mettez justement les femmes à l'honneur dans votre nouvel album, Women. Vous mettez en lumière 14 compositrices remarquables, vous mêlez des œuvres inédites, des chefs-d'œuvre oubliés. L'album s'ouvre sur un arrangement entre une œuvre d'Ethel Smith, March of Women, et un discours d'Emmeline Pankhurst, qui est une figure emblématique du mouvement suffragiste britannique. Elle l'a fait en 1908 à Hyde Park, ce discours, et on va l'écouter.
My friends, in spite of His Majesty's government, I am here tonight.
Mes amis, en dépit du gouvernement de Sa Majesté, je suis là ce soir. Je sais les sacrifices que vous avez faits pour être ici. Je sais que beaucoup d'entre vous se sont éloignés des vies que vous meniez autrefois. Pourtant, je ressens votre esprit ce soir. Pendant 50 ans, nous n'avons eu de cesse de lutter pacifiquement pour obtenir le droit de vote pour les femmes. Nous avons été ridiculisés, battus et ignorés. Aujourd'hui, nous comprenons que nos actes et sacrifices doivent être à l'ordre du jour. Nous nous battons pour vivre dans une époque où chaque petite fille qui voit le jour puisse grandir avec les mêmes chances que ses frères. Ne sous-estimez jamais le pouvoir que nous, les femmes, avons de définir notre propre destin. Nous ne voulons pas briser la loi, mais faire la loi. Soyez militantes, chacune d'entre vous, à votre manière. Celles qui peuvent briser des vitres, brisez-les. Celles qui peuvent s'attaquer à l'idole sacrée de la propriété, faites-le. Nous n'avons plus d'autre choix que de défier ce gouvernement. Si nous devons aller en prison pour obtenir le droit de vote, que les fenêtres du gouvernement soient brisées, et non le corps des femmes. J'incite cette assemblée et toutes les femmes de Grande-Bretagne à la rébellion. Je préfère être rebelle qu'esclave.
Il faut faire plus de bruit, a dit Emmeline Pankhurst, plus de bruit, plus de musique. Et puis, il faut écouter aussi cette musique que ces femmes nous ont laissée. Qu'est-ce qui vous a tant touché dans ce discours que vous avez décidé de mettre en musique, Esther Abrahmi?
Honnêtement, rien que là, je l'écoutais, j'avais l'émotion qui arrivait, quoi. C'est tellement fort comme discours et je trouve que... J'ai trouvé qu'il y a certaines choses qu'elle disait qui étaient encore tellement d'actualité aujourd'hui, et même si les choses ont progressé. Mais en fait, je pense que dans cet album, l'idée a été de faire connaître donc la musique de ces femmes, mais en fait aussi de montrer que cette musique, elle n'est pas seulement importante parce que c'est une histoire de la musique, elle fait partie en fait de l'histoire avec un grand H. Et c'est pour ça que je voulais allier ce discours, parce qu'en fait, quand on sait que Ethel Smyth, cette compositrice qui a écrit La Marche des Femmes, qui est devenue l'hymne officiel des suffragettes, était ensemble avec Emmeline Pankhurst, on voit en fait des figures, et c'est ce qu'on voit beaucoup dans plein de compositrices dans cet album, où en fait, c'est des figures qui ont été des figures musicales, mais qui ont été amies avec des grandes figures de la littérature, de plein de mouvements comme ça. Et c'est ça qui est beau, et c'est ça qui est assez magique. Et quand on se rend compte qu'on a raté cette partie de l'histoire, c'est tellement dommage, et c'est ce que j'essaye de montrer. C'est pour ça que ça m'a touchée, en tout cas dans ce discours m'a touchée. Je me suis dit que ce serait quand même beau d'arriver à allier en fait la musique qu'Ethel Smyth avait composée avec ce discours et de les remettre ensemble et d'essayer de faire quelque chose comme ça. C'était un challenge aussi parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose qui se fait beaucoup dans la musique classique. On n'entend pas ça souvent sur les albums, mais j'ai trouvé que c'était un bon moyen de faire une bonne introduction en tout cas de cet album pour donner le ton.
Oui, et puis puisque c'est un album sur lequel vous faites dialoguer des femmes, des époques. On entend Yoko Shimomura qui a composé pour le jeu vidéo Final Fantasy. Ouais. On entend Miley Cyrus avec Flowers, son tube très récent et qui a fait un énorme carton. Et elle côtoie des compositrices beaucoup plus anciennes. On remonte jusqu'au Moyen-Âge hein, avec Hildegard von Bingen. Il y a des compositrices du 19e siècle, du 20e siècle. Comment est-ce que vous les avez sélectionnées, ces différentes compositrices, Esther Abrahmi?
Je les ai sélectionnées évidemment pour la musique qui m'a touchée quand je l'ai écoutée, quand je l'ai lue et que je l'ai jouée, mais par les histoires de ces femmes. J'ai choisi vraiment des compositrices qui ont des histoires inspirantes, touchantes, incroyables, qui je pense peuvent inspirer beaucoup de filles, de femmes aujourd'hui.
Ce qui frappe aussi dans leur parcours, c'est souvent l'extrême difficulté qu'elles ont eue pour avoir le droit de composer, pour se faire connaître. Et parfois, c'est un échec et on les redécouvre aujourd'hui, Exactement. Mais elles sont complètement tombées dans l'oubli. Et puis souvent, le fait aussi qu'elles composent pour d'autres qu'elles-mêmes. Je pense à Chiquinha Gonzaga, qui a vendu ses compositions pour soutenir l'abolition de l'esclavage et les droits des femmes au Brésil au 19e, au début du 20e siècle. Ou à Ilse Weber, qui est une infirmière déportée à Auschwitz, qui a utilisé la musique pour apaiser les enfants, parce qu'elle n'avait pas de médicaments, les enfants dont elle s'occupait. Ce sont des histoires qui vous ont touché et qui disent aussi quelque chose de la pratique musicale, de la composition des femmes.
Oui, c'est sûr. Je pense qu'on réalise... En fait, ça m'a aussi fait réaliser, je pense, l'importance de laisser une trace. Ces femmes, aujourd'hui, en fait, c'est vrai qu'on ne les connaît pas, on les connaît peu, en tout cas. J'ai fait des études dans la musique pendant 15 ans et au cours de ces 15 années, j'ai pas une seule fois, j'ai entendu justement l'histoire de ces femmes. Et c'est après que je l'ai appris, c'est après en cherchant de par moi-même que j'ai commencé à trouver toutes ces histoires, ce qui est quand même dommage. Et la raison pour laquelle on arrive à retracer toutes ces histoires, c'est parce qu'elles ont justement laissé cette trace-là et qu'on se rend compte de l'impact, on peut se rendre compte de l'impact qu'elles ont eu de leur vivant sur les gens autour d'elles. Et je pense que ça devrait inspirer. En tout cas, moi, ça a été le cas pour moi. J'ai toujours voulu composer, j'ai toujours mis ça un petit peu de côté. Et après avoir étudié la vie de ces femmes, je me suis dit, mais en fait, c'est important. C'est important de laisser, d'écrire en musique ce qu'on vit aujourd'hui en tant que femme.
Il y a aussi un très beau concerto d'Ina Boyle, compositrice du début du XXe siècle, concerto pour violon et orchestre, à la mémoire de ma mère, entre parenthèses. On écoute un extrait. C'est la première fois que ce concerto est enregistré. Esther Abrami, comment avez-vous fait pour le retrouver et le mettre à l'honneur ? Quel a été le parcours ?
J'ai fait beaucoup de recherches pour trouver des morceaux et surtout je voulais trouver un concerto écrit par une femme. Et j'ai commencé à chercher, je me suis retrouvée dans une playlist YouTube un peu sombre, avec pas beaucoup de vues, qui disait, je crois le titre, les concertos les plus inconnus au monde, un truc comme ça. Et je suis tombée là-dessus et je l'ai entendu. Et alors c'est pas un enregistrement professionnel, mais c'est une répétition, je crois en tout cas. Et j'ai entendu, je me dis mais c'est magnifique. Et j'ai commencé à chercher, j'ai trouvé donc cette compositrice qui s'appelle Ina Boyle, qui était l'élève de Ralph Vaughan Williams, dont j'ai joué le morceau Le Lark Ascending au Royal Albert Hall, qui est un morceau absolument incroyable. Et j'ai trouvé qu'il y avait d'ailleurs des ressemblances dans les styles, en tout cas. Et j'ai commencé à lire son histoire et je me suis aperçue qu'elle, vraiment, voilà, il y a beaucoup de compositrices dans cet album dont je parle, qui ont été très connues de leur vivant. Et par exemple, même dans un album précédent, j'ai parlé de Clara Schumann. On parle de femmes qui ont eu le succès de leur vivant, qui ont été très connues. Avec Ina Boyle, c'est une compositrice qui, justement, n'a jamais eu ce succès. Toute sa vie, elle a failli, ça a failli prendre, et puis ça n'a pas pris. Alors, il y a des raisons, elle a vécu entre les deux guerres, enfin, il y a eu des choses. Mais je me suis dit, ce serait quand même magnifique si on arrivait, entre guillemets, à changer un petit peu le cours de l'histoire. Et à la faire connaître aujourd'hui. Est-ce que ce concerto puisse enfin être joué? D'ailleurs, je suis ravie de je vais jouer ce concerto avec un orchestre britannique et aussi aux États-Unis l'année prochaine. Mais l'idée, c'est d'essayer de changer un petit peu le cours de l'histoire et de faire que des morceaux et en tout cas des compositrices qui n'ont jamais eu ce succès de leur vivant puissent l'avoir aujourd'hui.
Son professeur lui avait écrit, c'était Ralph Vaughan Williams, lui avait écrit « Je trouve très courageux de votre part de persévérer malgré si peu de reconnaissance. Tout ce que je peux dire, c'est que celle-ci finit parfois par arriver. Voilà. Ça vous émeut que là,
oui.
C'est... »
Oui, ça, ça bah oui j'espère. En tout cas, j'espère que les gens vont l'apprécier. Et puis, il faut s'accrocher.
Vous-même, vous avez composé pour cet album. Est-ce que ça nécessite du courage, de la combativité, de s'autoriser ça?
Il faut du courage quand même. Il faut du courage pour sortir de sa zone de confort. Il faut du courage pour, quand on a l'habitude d'interpréter des morceaux, que les gens nous connaissent pour ça, de se dire, attendez, je vais sortir quelque chose, c'est différent, c'est nouveau, c'est ma composition. Mais c'est venu assez naturellement. Et surtout, j'ai envie de dire, le plaisir que j'ai pris à le faire, à le composer, l'émotion que j'ai eue quand je l'ai composé et même quand je l'ai enregistré, le moment où j'étais à Vienne avec l'orchestre radio philharmonique de Vienne et qu'ils ont commencé à jouer. Et je me dis, mais en fait, c'est les notes que j'avais dans ma tête que tout cet orchestre est en train de reprendre aujourd'hui. C'est absolument incroyable comme sensation. Donc je pense que ça a dépassé la peur de « Ah, est-ce que les gens vont bien aimer ou pas ?»
Vous aimeriez, Esther Abrami, qu'on sorte aussi peut-être dans les écoles, dans les académies, de cet automatisme de toujours donner à jouer des partitions ou mettre en lumière des vies de compositeurs masculins?
En tout cas, qu'il y ait plus d'égalité. En tout cas, je pense pas qu'il faut enlever les compositeurs. Mais en tout cas, il faut rajouter aussi les compositrices. Et il faut le faire parce que la musique est magnifique. Il faut le faire parce que les histoires sont belles. Il faut pas le faire parce qu'on doit le faire. Et c'est ce que j'essaye de faire comprendre avec cet album. C'est que je ne veux pas forcer les gens ou les faire se sentir coupables de ne pas connaître. L'idée, c'est on apporte quelque chose. On a un trésor là et on devrait vouloir le découvrir.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Esther Abrami. Merci. Je rappelle que l'album Women est disponible depuis le 25 avril chez Sony Classical et que vous êtes en tournée en ce moment avec un passage prévu à l'Olympia à Paris le 23 novembre 2025. Avant, vous allez passer par Annecy, Aix-en-Provence, votre ville natale, Genève. On peut retrouver toutes les dates sur votre site internet. On va se quitter sur Corta Jaca de Chiquinha Gonzaga, arrangé par Jan-Peter Klopfel. Et on se retrouve dans un instant en compagnie de l'organiste Alma Bettencourt. Et me voici de retour pour cette deuxième partie des Midis de Culture consacrée à la musique. Je suis en compagnie d'Alma Bettencourt, organiste et pianiste qui sera en septembre 2025 résidente à Radio France. Elle a reçu en 2013 le premier prix du Concours international de Paris et depuis elle ne fait que grimper. Elle étudie en plus du piano aussi l'orgue. Depuis 2016, elle vient de sortir son premier album solo, Julius Röpke, les deux sonates. Elle sera en concert lors des moments d'orgue quotidiens au Festival de Rocamadour à la Basilique Saint-Sauveur, du 18 au 26 août à midi. Bonjour Alma Bettencourt.
Bonjour.
Vous avez commencé le piano à l'âge de 5 ans. Est-ce que vous pouvez retracer pour nous le parcours qui vous a mené jusqu'à cette année 2025 qui est si riche pour vous avec la sortie de votre premier album, cette résidence à Radio France, les concerts que vous allez aussi jouer à Rocamadour?
Oui, alors j'ai commencé le piano à 5 ans avec ma mère et mon père est pianiste. Donc j'étais vraiment baignée dans la musique très jeune et j'ai commencé à étudier au Conservatoire de Paris avec Elena Rosanova le piano et je suis passée ensuite au CRR de Saint-Maur avec Romano Palottini. Et entre-temps, j'ai fait la rencontre de l'orgue, de l'instrument de l'orgue et j'ai commencé à étudier avec Éric Lebrun à Saint-Maur l'orgue. Et ensuite, je suis passée au Conservatoire de Paris en orgue avec Olivier Villatry, Thomas Hospital, Michel Bouvard et Maud Graton. Et ensuite, je suis rentrée en piano au Conservatoire de Paris aussi. Et aujourd'hui, je viens de finir mon master il y a quelques mois d'orgue. Et voilà, je commence la vie plus professionnelle. J'ai toujours mes études en piano, mais voilà, je commence à faire beaucoup de concerts et je suis très très contente.
Pourquoi est-ce que vous vous êtes intéressée à l'orgue et comment est-ce que dialoguent ces deux instruments, piano et orgue, dans votre vie de musicienne?
Eh ben, en fait, je faisais un stage de piano quand j'ai rencontré cet instrument et j'ai essayé et ça m'a tout de suite paru très impressionnant. J'avais tout de suite envie de découvrir davantage cet instrument que je connaissais pas du tout, en fait, au départ. Et après, au fur et à mesure, j'ai continué à faire les deux. J'ai beaucoup développé l'orgue et j'ai vraiment apprécié cet instrument et j'ai vraiment voulu en faire davantage. Et depuis, je garde vraiment ces deux instruments. J'ai un rapport très différent avec les instruments, mais je compte pas du tout en arrêter un prochainement.
On va écouter la sonate pour piano en si bémol mineur de Julius Röpke qui date de 1857, interprétée par vous, Alma Bettencourt. Magnifique interprétation de Julius Röpke, qui est né en 1834, qui est un disciple de Franz Liszt, qui meurt à 24 ans, qui ne laisse que peu d'œuvres derrière lui. Pourquoi est-ce que vous avez eu envie de mettre en valeur ce compositeur, beaucoup moins connu que son maître Franz Liszt, Alma Bettencourt?
Oui, en fait, je connaissais donc la sonate pour orgue, qui est assez connue quand même chez les organistes, et j'ai découvert en cherchant et en parlant avec mes professeurs qu'il y avait aussi une sonate pour piano qui était très peu joué. Et je me suis dit que c'était intéressant de lier ces deux sonates-là pour deux instruments dans le même disque, et surtout que c'était peu connu, donc j'ai aimé pouvoir interpréter aussi sans avoir forcément quelque chose de préconçu dans l'oreille. Et c'était un travail très très intéressant, et c'est la musique que j'adore, donc j'ai vraiment apprécié monter ces deux sonates-là.
Comment est-ce qu'elles dialoguent, ces deux sonates pour piano, d'un côté celle de Liszt et de l'autre celle de Röpke? Quels sont les ponts entre elles?
Oui, elles sont toutes les deux très sombres. C'est de la musique qui est très sombre, qui est très complexe. On sent qu'il y a une espèce de... Il y a la souffrance chez ce compositeur. Et on peut retrouver beaucoup de ressemblances, mais la forme quand même de ces deux sonates-là sont assez différentes. La sonate pour orgue a une forme plus classique, et la sonate pour piano a une forme quand même plus complexe, plus confuse. Et c'était ça qui était intéressant justement, c'était d'arriver à rendre tout ce discours très fluide et facile à l'écoute.
Vous vous êtes intéressé aussi à la difficulté, finalement, quelle difficulté vous avez rencontré en l'interprétant, Alma Bettencourt, et est-ce que c'est ça qui a capturé votre attention? Ce qui est assez courageux d'ailleurs.
Oui, en fait, j'ai trouvé musicalement, c'est la musique qui est pas si facile à rendre simple, en fait. Et ça m'a beaucoup intéressée, parce que j'ai beaucoup réfléchi, je me suis posé les questions, comment conduire les phrases, jusqu'à où, parce que c'est des grandes phrases, parfois, qui sont très complexes, ça va plein de choses à l'intérieur. Et j'ai trouvé ça vraiment très enrichissant de se poser des questions sur ça, et sur comment rendre cette musique simple, en fait.
Quelle liberté est-ce que vous avez dans l'interprétation face à une partition, quand vous vous en emparez?
À premier abord, j'essaie de rendre les choses très simples, et ensuite je me permets des libertés autres dans l'interprétation, et aussi grâce au fait que j'ai pas beaucoup écouté de version. Ça, j'ai fait exprès de pas beaucoup en écouter pour pouvoir me faire une idée moi-même de ce que je voulais entendre et de ce que je voulais comment je voulais la jouer, comment je voulais la conduire, ce que je voulais faire ressentir dans cette œuvre. Et là, j'ai pu prendre ces libertés-là les harmonies, les mélodies, comment je veux conduire cette phrase, jusqu'à où, ça c'était vraiment, j'ai adoré.
Oui, on vous sent heureuse de ce projet. Est-ce que vous avez découvert des éléments, des informations sur la vie de Julius Röpke, Alma Bettencourt, puisqu'on ne sait pas grand-chose de lui?
Non, en fait, on ne sait pas grand-chose. J'ai cherché dans beaucoup de textes de trouver des informations, mais on n'en a pas tant que ça. Mais il y a quelque chose qui a été très intéressant pour moi et très important pour cet enregistrement, c'est un voyage de classe à Weimar qu'on a eu avec la classe d'orgue, et c'est là où j'ai découvert l'orgue pour lequel Julius Röpke avait composé cette sonate. Et là, on comprend beaucoup de choses aussi de sa vie, de comment il a pensé les choses, comment il a cherché ses registrations, les sonorités qu'il voulait entendre, et aussi de l'atmosphère, de comment ça se passe à Weimar, à Merseburg et tout ça. Et ça a été très important pour moi.
Ouais. Vous dites qu'il y a quelque chose de sombre dans cette musique. D'où ça vient?
Ça vient, je pense, de... sans doute de sa personne, de la culture, de sa maladie, de cet orgue. Cet orgue à Merseburg, il est très très sombre, il a des couleurs très... très, comment dire, spécial, que j'ai essayé de retrouver à Saint-Sernin. Évidemment, je ne pouvais pas les retrouver exactement, mais j'ai essayé de retrouver cet univers que j'avais entendu à Merseburg. Et c'est quelque chose de très froid aussi, de très dense. Vraiment, ça m'a beaucoup, beaucoup marqué de jouer cet orgue-là.
Est-ce que les orgues émettent différentes vibrations selon les instruments? Est-ce qu'ils dégagent une énergie?
Oui, tous les orgues sont différents, et c'est ça qui est génial, c'est qu'on doit à chaque fois écouter vraiment beaucoup, beaucoup pour comment faire sonner le mieux ces instruments, mettre quel jeu ensemble, qui marche ou qui ne marche pas. C'est à chaque fois, et les instruments répondent différemment, le toucher est différent. C'est toujours une adaptation énorme quand on passe d'un orgue à l'autre, et ça c'est vraiment génial, moi j'adore.
Et l'orgue de Radio France sur lequel vous allez jouer, vous avez pu sentir sentir déjà sa personnalité?
Mais j'ai pas encore pu beaucoup jouer dessus, donc ça va venir, mais je l'ai beaucoup entendu, je suis beaucoup à l'écouter les concerts et j'ai hâte de voir comment on peut aussi le faire sonner très très bien.
Vous produisez au Festival de Rocamadour, qui est aussi un label créé en 2020. Mm-hmm. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots rapidement sur ce festival et tout ce qu'il fait pour la musique classique?
Oui, alors déjà le label, et c'est génial parce que ce partenariat avec le CNSM, ça apporte beaucoup pour les jeunes parce qu'on sort à peine et on a un disque. Et le festival aussi, il y a beaucoup, beaucoup de programmations différentes. Il y a des grands artistes qui viennent, il y a plein de projets différents. Et donc, pour l'orgue, moi, je vais jouer des concerts quasiment tous les jours, de 30 minutes sur l'instrument là-bas. Et c'est génial parce que c'est plein de choses différentes et je vais pouvoir jouer plein de petites choses pendant 30 minutes et faire découvrir cet instrument aux gens qui ne connaissent peut-être pas.
On vous retrouve donc à Rocamadour du 18 au 26 août, Alma Bettencourt. On écoute votre album Ilius Röpke, les deux sonates, et on pourra vous entendre à Radio France dès le 12 septembre avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France, la symphonie numéro 3 avec orgue de Saint-Saëns. On va se quitter avec l'une de vos interprétations de la sonate pour orgue en ut mineur de Ilius Röpke. Et cette émission a été préparée par Zoé Coupé, Léa Weichgruss, Lisa Dejode, Nina Gandara, à la réalisation Delphine Keravec et à la technique Ludovic Auger.